première vue avec le temps. À première vue, Pierre-Philippe Cader.
Bonjour Denise Gillian.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oui, ça va.
Ça va bien? Médium d'un monde à l'autre, un livre publié aux éditions Favre, en compagnie d'Alain Maillard, qui, je le rappelle par ailleurs, sera demain l'invité de Médialogue demain matin pour parler justement de ce sujet. Et puis c'est le film également qui sort demain. Un livre et un film, le sujet est vaste et il fallait donc réunir ces deux médiums. Facile pour en parler.
Alors... C'est intéressant la complémentarité des deux supports. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, le livre n'était pas prévu au départ, seulement le film l'était, mais j'ai réuni 44 heures d'interview pour réaliser le film. Et c'était une matière extrêmement intéressante, que j'en fais toujours retranscrire par une secrétaire, en fait, ouais, de façon à faciliter le montage. Et quand je me suis retrouvée face à cette matière, je me suis dit, mais c'est trop dommage de pas l'exploiter, de pas l'utiliser. Il se trouve que je vis avec Alain, qui aime faire des bouquins, donc ni une ni deux. Alain s'est emparé de cette matière, qu'il a structurée autrement, complétée, etc. Bien sûr, c'est pas de la transcription brute. Mais c'est vrai qu'on est ravis de pouvoir sortir l'un et l'autre maintenant, parce que le film est plutôt, je dirais, émotionnel. Il donne à ressentir des séances de médiumnité. Et puis le livre est plus nourrissant intellectuellement. C'est plus structuré. Il y a tout un aspect sur l'historique de la médiumnité ou son rôle social qu'on ne trouve pas dans le film. Donc c'est chouette. Ouais. Ouais.
C'est complémentaire donc.
C'est complémentaire.
Ouais, absolument. Avant de parler plus avant de vous, Denise Gillian, de rappeler les quelques films que vous avez fait également auparavant, dont certains sont assez proches d'ailleurs de cette thématique dont nous parlons aujourd'hui. Lorsqu'on dit médium, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Quelle est la différence entre un médium, une voyante? Enfin, je dis une, mais il y a plus de voyantes que de voyants, d'ailleurs.
Oui, alors c'est vrai que c'est très important de le préciser, parce qu'il y a de grandes confusions faites là-autour, étant donné que ce sont des professions qui ne sont pas reconnues. Il n'y a pas de diplôme reconnu par l'OFIAM, tout que sais-je. Donc, un médium, en fait, c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre un monde et l'autre, entre le monde des vivants et le monde désincarné, qui peut être le monde des défunts, des esprits ou de guides spirituels. Donc le médium est vraiment un intermédiaire. Un voyant utilise des supports tels que mare de café, cartes, etc. Il n'est pas forcément en contact avec un monde invisible. Il peut l'être, ça n'exclut pas la chose. Mais a priori, non, il se base plutôt sur son sixième sens, on pourrait dire ça comme ça. Et ce sixième sens s'appuie sur des supports tels que les cartes, etc., etc. Quelqu'un qui a le secret reçoit en fait une formule magique, une prière, qu'il s'agit de dire. C'est quelque chose qui est secret, comme son nom l'indique, qui se transmet d'une personne à l'autre et qui ne fait pas appel à un don particulier. Je pense qu'il faut avoir une foi très très profonde pour croire qu'une prière stoppe une hémorragie, par exemple. Mais ça, ce sont pas des gens qui savent se mettre en état de conscience modifié ou faire des prédictions d'avenir, etc. Donc c'est encore tout à fait autre chose.
Depuis quand vous intéressez-vous au médium, en fait?
Je dirais la question existentielle de l'après-vie depuis toute petite. Qu'est-ce que c'est la mort? Est-ce que
bon, ça, c'est classique,
existe une âme, etc. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment depuis l'enfance et ça m'a pas quitté. Ouais. Certains, ils évoluent et ça les quitte. Moi, ça m'a pas quitté. Ouais. Ensuite, j'ai vécu au Mexique à l'âge 17-18 ans et ça m'a fortement influencé, certainement.
Le Mexique est une terre de guérisseurs et de sorciers, de chamans.
Oui. Oui, et c'est vrai qu'à chaque coin de rue, dans toutes les couches sociales, tous les milieux, les gens, ils ont leur sorcier, leur sorcière, au même titre que nous, on a notre coiffeur. Voilà, c'est inscrit dans le quotidien. Et la Toussaint, comme on est en pleine Toussaint, est quelque chose de très joyeux, très festif. Ils font la fête dans les cimetières, et des squelettes partout, mais c'est pas une représentation de la mort comme ça, lourde et triste, telle qu'on peut la vivre ici. Donc, ayant vécu 2 ans, très jeune, dans ce pays-là, je pense que ça m'a alertée, attiré l'attention. Enfin, voilà, ça m'a ouverte, je dirais, à tout ça. Ensuite, je suis revenue en Europe, donc je me suis un peu éloignée de ce type de pratique et de culture. Puis c'est revenu assez fort, je dois dire, ce genre de questionnement à la naissance de mes enfants. Je pense qu'en donnant la vie, je me suis réinterrogée sur la mort, et, sur l'âme, et à quel moment est-ce que s'il y a une âme, elle investit mes enfants, etc., etc. Et c'est juste après, en fait, la naissance de ma fille que j'ai fait aux frontières de la mort, sur ces expériences de mort imminente. Et ça a été le premier film sur le sujet.
Les expériences de mort imminente sont des gens qui, effectivement, sont à deux doigts, non, mais sont très très proches de la mort et racontent souvent, pour certains, pas tous d'ailleurs, qu'ils ont vu quelque chose, senti quelque chose, vécu quelque chose de très différent qui reste à jamais imprimé dans leur esprit, dans leur corps. Ça fait d'ailleurs l'objet de films à Hollywood. On voit des bandes d'ados qui tentent de s'approcher de ces morts imminentes et near-death experience pour voir un peu ce qu'il y a dans l'au-delà. Ce serait un petit peu cette fenêtre, ce passage vers l'au-delà, c'est ça ?
Alors, les gens qui vivent des expériences de mort imminente sont cliniquement morts. Mmh. Hein, ils ne sont pas à l'approche de la mort, vraiment le corps est cliniquement out, l'électroencéphalogramme est plein, le cœur ne bat plus, il ne respire plus. Donc un médecin dira, il est mort. Les gens qui font une expérience de mort imminente, en fait, peuvent revenir à la vie dans les 2, 3, 4 minutes au maximum qui suit ce décès clinique. Et ce qu'ils relatent prouve que leur mémoire fonctionne, que leur conscience et leur mémoire fonctionnent alors que le cerveau, lui, cliniquement, est vraiment inactif, mort. Donc, en étudiant ces phénomènes, en regardant le nombre de témoignages qu'il y a dans le monde, quand même, actuellement, à mon avis, on ne peut plus se dire que ça n'existe pas. Maintenant, le fait que la conscience survive 2-3 minutes après le décès du corps ne prouve pas la vie après la mort. Il prouve la survie quelques minutes d'un fonctionnement de la mémoire, de la conscience. Quoi. Donc la question assez naturellement qui se pose après, c'est oui, mais 4, 5, 6, 10 minutes après, qu'est-ce qui se passe ? Puis c'est là que la médiumnité, en fait, intervient. C'est qu'on n'aura jamais accès à ça de notre vivant. Mmh. Et heureusement, d'ailleurs, que le mystère subsiste.
Oui.
Il
ne
s'agit pas non plus de le déflorer, je pense que c'est très important. Oui. Mais si on veut explorer un tout petit peu plus loin et comprendre un peu plus de choses, ben, il n'y a que les médiums qui peuvent nous raconter. Oui. D'où ben voilà, ce film et ce deuxième chapitre, je dirais, cette exploration.
Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un petit peu de ces expériences de mort imminente, parce que semble-t-il, c'est un peu le sujet qui en amène un autre, d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on en arrive au médium. Alors, la personne qui est centrale dans le film et également centrale dans le livre, c'est Céline Bauzon-Sommer, qui, elle, est médium. Elle officie à Martigny, elle ne fait pas de publicité, elle ne veut pas, elle fonctionne sur le bouche à oreille et elle a accepté de se prêter au jeu, à l'expérience en l'occurrence, d'être filmée face à des gens dont certains sont très sceptiques, d'autres ont des doutes. Elle se prête, il faut bien le dire, de très très bonne grâce à l'exercice. Comment Céline Bauzon-Sommer, ça lui est tombé dessus d'une certaine façon ?
Alors, on m'avait donné le numéro de téléphone de Céline, une amie en fait, bien avant que j'aie eu l'idée de faire le film, en me disant, si une fois t'as besoin d'une médium, je te la recommande, elle est fantastique. Puis j'ai gardé le numéro, j'en avais pas besoin, enfin ça m'intéressait pas encore. Et à un moment donné, il y a eu un décès dans mon entourage qui a fait que j'ai eu envie d'essayer. De tenter la chose. Puis je suis allée voir Céline, ça devait être en 2005 ou 2006. Et je dois dire que j'étais assez époustouflée par la précision de la description de 3 défunts de ma connaissance qu'elle a fait. Et bon voilà, c'était une démarche privée. Ça allait rester encore quelques années jusqu'à ce que l'idée du film émerge. Puis ensuite, alors moi j'avais complètement oublié Céline en fait. Quand l'idée du film a émergé, ben j'ai recommencé une sorte de casting. Enfin, j'ai rencontré énormément de médiums, testé énormément de médiums.
Puis à un moment donné. Comment on teste les médiums ?
Ben, en faisant des séances. Ou en allant observer des démonstrations publiques. Il y a pas mal de médiums qui donnent des séances de médiumnité publique, ça veut dire qu'ils sont debout face à une salle de 100-200 personnes. Ils se mettent en contact avec un défunt qu'ils décrivent. Puis dans la salle, il s'agit de reconnaître ou pas le défunt décrit. Alors ça, j'en ai vu pas mal aussi. Puis c'est une façon intéressante, en fait, d'observer le travail des médiums sans être directement impliqué. Mmh. Parce que c'est vrai qu'en individuel, on est très directement impliqué. Ouais. C'est pas toujours non plus à propos ou agréable. Mmh. Et il existe des écoles de médiumnité. Donc à travers les écoles aussi, en rencontrant des élèves, on peut observer comment fonctionne une classe de 10, 20, 30 élèves d'un coup. Donc voilà, mais c'était une exploration comme ça, à travers ces 3 moyens que j'ai faites. Et puis à un moment donné, m'est paru assez évident qu'il fallait, dans le film, donner à sentir au public ce qu'était une séance de médiumnité. Parce que ça se raconte difficilement. Et même si on le raconte, ça se croit encore plus difficilement, hein, quand on dit « mais oui, je vous assure,
il a dit… » Une image vaut mieux qu'un discours.
Absolument. Donc, je dis, il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de faire des séances en direct. Ouais. Et pour corser la chose, je voulais mettre le ou la médium à l'épreuve, à savoir lui bander les yeux. Parce que beaucoup de gens disent « oui, mais ça ne marche que si l'autre donne des informations corporelles à travers des acquiescements, des négations, etc. etc. » Donc ça, c'était une façon, en fait, d'éviter cette tentation-là. Et puis, de lui mettre dans les mains, en fait, des très, très, très sceptiques. Parce que je trouvais intéressant aussi de déjouer l'idée préconçue, de dire ça ne marche qu'avec des gens qui y croient. Mmh. J'avais envie d'observer ce que ça pouvait donner avec des gens qui n'y croient pas. Puis c'était du coup aussi beaucoup plus pimenté au niveau du dialogue que ça.
Il y a des très, très, très sceptiques dans le film, notamment Narcisse Prat.
Absolument, qui est un exemple en la matière.
C'est un exemple en la matière, lui, est un sceptique, on va dire, de tout ou presque, hein, d'une certaine façon. Comment aujourd'hui elle vit cela, si je puis dire, Céline Besançon-Mère ? Parce qu'elle est très mise à contribution par le film, vous faites une tournée avec elle, vous la présentez au public. D'une certaine façon, je trouve qu'il y a une sorte de contradiction entre sa volonté de rester discrète, à la fois pour des raisons tout à fait compréhensibles, et puis familiales aussi, et puis tout à coup se mettre dans la lumière comme ça, vous l'emmenez avec vous, vous lui faites faire la tournée des cinémas, c'est un petit peu...
Ouais,
délicat.
Alors Céline dit se mettre au service du monde spirituel. Quand je lui ai proposé de faire le film, elle a pas dit oui. Elle a dit je réfléchis et je vais demander à mes guides spirituels l'autorisation de le faire. Elle se sentait pas à la hauteur, elle se sentait pas justement d'être mise comme ça sur le devant de la scène. Elle a pris quelques semaines avant de me donner réponse. Et en fait elle a dit oui parce qu'elle était encouragée, selon ses dires, par ses guides, par le monde spirituel, a accepté. Elle aurait reçu comme mission, je mets des gros guillemets, c'est pas le mot qu'elle utilise, mais enfin, elle aurait reçu pour mission d'expliquer ce qu'est la médiumnité en toute simplicité. Et une des qualités de Céline, c'est vrai, c'est cette simplicité. Elle est très, très terre à terre, très simple comme ça dans sa façon d'aborder les gens, les choses, dans le vocabulaire utilisé. Donc voilà, en fait, elle le fait avec plaisir et beaucoup de dévouement, je dois dire de courage aussi, parce qu'elle a envie de montrer ce qu'est la médiumnité, puis de le montrer sous un jour plutôt léger, joyeux, lumineux.
Oui, il n'y a pas de décorum hollywoodien et de, on a assez loin de la voyance,
peur,
effectivement.
Parce que quand même, on est dans des cultures où, à travers le cinéma surtout, on induit la peur sans arrêt, hein, à travers les représentations de l'au-delà, les fantômes, etc. Puis quand les gens parlent au bistrot aussi de leurs histoires de fantômes, c'est souvent effrayant. Alors ça énerve beaucoup Céline et tout un tas de médiums qui eux disent non, si on travaille dans la lumière, on travaille dans la lumière. Il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de fantômes qui viennent nous chatouiller la nuit.
Nous parlons de médium d'un monde à l'autre, livre signé Denis Gilles, notre invité en compagnie d'Alain Maillard. Le film sort demain et vous y verrez effectivement Céline Besançon-Mère et d'autres personnes pratiquer l'art de la médiumnité. On va revenir à vous, à votre parcours d'ici quelques instants. Denis Gilles, ce sera juste après cette chanson signée Keren Anne. Et vous êtes sur La Première et c'est À Première Vue jusqu'à 14h.
Qui fondent et que la lumière soit. Passent les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit. Chez toi. de chez moi et que la lumière sera comme le premier jour du premier mois de nos corps à corps et que la lumière pas de chez moi.
Au coin du monde, c'est Kerena, nous êtes sur la première. C'est à première vue, nous sommes en compagnie de Denise Gillian et nous parlons avec elle de son film « Médium d'un monde à l'autre ». Le film sort demain. Il y a également un livre, je vous le rappelle, signé Denise Gillian et Alain Maillard, « Médium d'un monde à l'autre », publié aux éditions Favre. Alain Maillard sera demain matin dans Médialogue. On en revient à ces médiums que vous nous montrez dans le film, Denise Gillian. Moi, j'avais noté comme ça, en regardant le film, « Science contre conscience ». Semble-t-il, il y a de très très gros débats, dont vous faites état par ailleurs dans le film, entre les scientifiques d'une part et certains scientifiques aussi d'ailleurs, qui eux font appel au médium, enfin croient, enquêtent, investiguent et se posent quand même quelques questions par rapport au médium. Et puis, nous savons que les hôpitaux font parfois appel, là on ne parle pas de médium mais de guérisseurs, à celles et ceux qui ont le secret, notamment pour les brûlures et que les résultats sont assez spectaculaires. Comment expliquez-vous qu'une grande partie de la communauté scientifique, alors qu'elle est face à certaines évidences dans certains domaines, refuse peut-être juste d'entrouvrir un peu la porte et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté?
Alors, c'est d'explications comme ça, j'en ai pas directement, si ce n'est que expérimenter des états de conscience modifiés ou l'efficacité de certaines formes de guérison qui font pas appel à des médicaments qu'on peut vendre, mais à de l'énergie qui est gratuite, rapporte d'argent à personne. Donc ça, je pense qu'il y a une notion économique derrière qui fait que qui va investir dans ce type de recherche, c'est vrai que dans nos pays, hein, où tout est justifié quand même par le gain, où beaucoup de choses sont justifiées par le gain, c'est déjà un frein. Ensuite, je pense que quand on fait 15 ans d'études de médecine et qu'on est formaté, hein, à observer et à ne croire que ce qu'on voit et à travailler en chirurgie ou sur des molécules, sur des cellules qu'on observe au microscope, etc. C'est assez dur d'admettre l'idée qu'il y a des guérisseurs philippins, par exemple, qui traversent la matière avec les mains, qui opèrent en 30 secondes, sans anesthésie, et qui sauvent des gens de cancer, alors qu'ils étaient peut-être en chimio depuis 2 ans. Voilà. Je pense qu'il y a ça. Il y a un des scientifiques dans mon film que j'aime bien qui parle de dissonance cognitive. Il dit quand en fait il y a une information qui vient trop chambouler notre échelle de valeur, ce à quoi on croit, un mécanisme de défense cérébrale fait qu'on la rejette aussi sec. Et ça nous protège. Et je pense que chez plusieurs scientifiques, en tout cas plusieurs scientifiques que j'ai rencontrés et abordés pour ce film, j'ai ressenti ça très fort. On est des farfelus, c'est n'importe quoi. Cela dit, il y a quand même des endroits dans le monde où il y a des recherches très sérieuses qui se font. Et là, je pense notamment au Canada, où il y a quand même tout un tas d'institutions qui se penchent sur les états de conscience modifiés. Il y a également à Genève, dans notre pays, Sylvie Détiola, qui vient de sortir un bouquin qui est passionnant sur les états de conscience modifiés et qui a, elle, exploré les OB et sorties de corps. Donc ça existe quand même. Il y a quand même des scientifiques ouverts à la chose. Mais c'est vrai qu'ils sont très minoritaires.
Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de cette école. Là, c'est quasiment du Harry Potterisme. Mais il y a une école en Angleterre qui est très jolie, qui est la parfaite école anglaise de cinéma, en tout cas pour le sujet dont nous parlons, celui des médiums, dans laquelle, eh bien, on reçoit l'enseignement et on apprend à être médium. Donc ça veut dire qu'on a tous des dispositions peu ou prou pour être médium et que ça peut s'enseigner comme on enseigne la biologie ?
Alors oui, si j'en crois la majorité des médiums rencontrés, ce serait une aptitude qu'on a tous, un sens, au même titre qu'on a l'odorat, le toucher, etc., la vue, l'ouïe, on a tous un sixième sens. Et d'ailleurs, on a tous, un jour ou l'autre, eu des intuitions, eu l'impression d'avoir une petite voix qui nous disait « prends à gauche, pas à droite », ce qui fait qu'on évite peut-être l'accident de voiture, etc., etc. Alors, pour certains, c'est simplement un sixième sens, hein, une aptitude qui n'a rien à voir avec la médiumnité, mais qu'on peut tout à fait développer. Notamment la voyante Maud Christon l'explique comme ça. Pour les médiums, c'est une aptitude à se mettre dans des états de conscience modifiés à travers des méditations et à travers, en fait, une... Comment expliquer ça bien ? Ils disent se mettre dans des séquences vibratoires, des fréquences vibratoires un peu plus hautes, un peu plus rapides que celles dans lesquelles on est habituellement. Et là, ce serait comme des ondes radio, en fait. On cherche une fréquence radio, ils se connectent à cette fréquence radio, ce qui leur permettrait d'entrer en contact avec les défunts et de les entendre ou de les voir, selon qu'on serait clairaudient ou clairvoyant. Et oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'écoles de médiumnité qui s'ouvrent. Il y en a une à Neuchâtel, en Suisse, l'école Fréquence également. Et puis l'école que vous citiez, qui est vraiment l'école d'Harry Potter, le Arthur Findlay College, hein, qui a un look incroyable, quoi, le manoir vraiment, anglais, on voit des fantômes derrière les fenêtres, etc. Où là, c'est une institution qui forme des médiums du monde entier. C'est vraiment une grosse affaire. C'est pas une petite école comme ça. Et c'est en fait une école qui forme des médiums du monde entier et qui aspire à former également des révérends qui vont devenir révérends de l'église spiritualiste. Parce que dans cette église-là, tous les révérends sont médiums.
L'église spiritualiste, c'est une branche, comment dire, dissidente d'une église anglicane, c'est...
Alors, à un moment donné, il y a eu un schisme dans l'église catholique entre ceux qui ne reconnaissent pas la vie après la mort et ceux qui, oui, la reconnaissaient, des médiums, des précurseurs en la matière, qui ont eu besoin, en fait, de revendiquer la chose. L'église catholique, à ce jour encore, ne reconnaît pas les médiums ou difficilement. Et voilà, il y a eu, à un moment donné, cette création de l'église spiritualiste, d'abord aux États-Unis et ensuite en Angleterre. Et maintenant, ça concerne vraiment des millions de gens dans le monde. Rien qu'en Angleterre, il y a 500 églises spiritualiste, donc c'est énorme. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment gigantesque. Et dans des pays comme les Philippines ou le Brésil, des pays catholiques, où quand même il y a des croyances comme ça, un mysticisme qui prédomine, il y a énormément de pratiquants.
Avec une star, un certain Allan Kardec.
Allan
Kardec, effectivement, qui est français, c'est pas tout à fait son vrai nom, hein, c'est un nom qu'il a pris comme ça pour ses activités-là. Allan Kardec, qui est un des théoriciens du spiritualisme, si ma mémoire est bonne. Alors lui, c'est carrément une idole au Brésil, il a des timbres à son effigie, ses enseignements ont valeur vraiment très très importante dans la vie courante, y compris dans la vie des institutions. Cette église anglaise, britannique, elle se rattache à ce courant de pensée. C'est là.
Alors au départ oui, puis ensuite il y a encore eu scission, à savoir que les spirites, plutôt en francophonie, sont complètement liés à Allan Kardec, et c'est plutôt du spiritisme, ça veut dire qu'ils pratiquent plutôt de la médiumnité physique.
Et donc ça consiste à faire tourner les tables par exemple.
Tourner les tables, utiliser des planches Ouija... Ouais, des choses plus visuelles, quoi, ou plus auditives. Et les spiritualistes anglais, eux, pratiquent la médiumnité mentale, ça veut dire se mettre en contact avec des défunts, c'est moins physique. Alors, Allan Kardec, lui, il a écrit la Bible des médiums, le livre des esprits, qui lui aurait été dicté par des guides spirituels, et qui est vraiment, une espèce de Bible, quoi, le livre de référence, qui parle de l'au-delà, de l'organisation de l'au-delà, du devenir des esprits, de comment on peut communiquer avec eux, etc. etc. Et ça, c'est une référence, je pense, pour les médiums du monde entier.
Alors vous-même, vous êtes allé dans cette école, mais est-ce que vous avez suivi un enseignement ?
Alors j'ai expérimenté 2-3 choses, oui, parce que je suis curieuse. Alors j'ai pas suivi d'enseignement plus que tant, mais oui, j'ai expérimenté tout un tas de choses. Alors ce que je peux en dire, c'est que j'ai l'impression que oui, c'est une aptitude qu'on peut développer, tout à fait. Et notamment à travers des choses très simples qu'on peut tous expérimenter, comme des méditations. Hein, où c'est vrai qu'en se calmant, en calmant le mental, on arrive déjà à une perception des choses nettement meilleure, sans du tout parler de...
Bon, mais ça, ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Enfin, je veux dire, il suffit de...
C'est le début, je pense. Ouais. C'est le début. Ouais, se mettre à disposition. J'ai l'impression que dans nos cultures où tout va vite, où le mental est toujours surchargé, on est toujours en train de réfléchir à des choses, on est toujours stressé, eh bien, on est plus réceptif à quoi que ce soit. Donc, la première étape, pour moi, ce serait ça. C'est de se remettre en réceptivité déjà des autres. Et peut-être qu'une fois qu'on arrive à ça, alors, les médiums arrivent, eux, à se mettre en réceptivité dans un état de conscience. Un taux vibratoire, une fréquence vibratoire autre.
Scène saisissante dans le film, et en même temps très intrigante, et puis qui, moi, me questionne beaucoup. Ça se passe dans cette fameuse école, donc en Grande-Bretagne, où Céline Bozon-Sommer se fait photographier son aura, avec un appareil spécial qui photographie l'aura. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil, Denis Gillon?
Alors, c'est un appareil de photo qui photographie le champ électromagnétique de la personne. Ouais. À l'origine, c'est Kirlian qui a mis ça en place, et c'est d'ailleurs assez spectaculaire. Il voulait prouver, en fait, qu'on a un champ électromagnétique, ou un corps éthérique, enfin, selon le langage qu'on veut adopter, mais j'aime mieux dire champ électromagnétique, autour de notre corps, qui subsiste même après une amputation, par exemple. Donc, Kirlian a coupé en deux des feuilles d'arbres, les a photographiées tout de suite après l'avoir coupé en deux, et des heures plus tard. Et c'est assez étonnant, parce qu'on voit une espèce d'aura, comme ça, bleue, relativement fine, qui entoure la feuille, qui reste absolument entière. Donc, par exemple, Kirlian a expliqué que quelqu'un qui se fait amputer un membre, une jambe, un bras, etc., ça continue, souvent, il y a des témoignages, hein, ça continue à les démanger.
Ça s'appelle la sensation du membre perdu, effectivement.
Voilà. Parce que le corps éthérique subsiste. Donc cet appareil, en fait, qui photographie l'aura des gens, est issu de cette technique-là mise en place par Kirlian. Alors les médiums, ce qu'ils font, ou les guérisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent, en fait, en quoi est-ce que cette aura est modifiée quand ils entrent dans un état de conscience modifié. Ce qu'on a fait dans le film, c'est qu'on a photographié Céline, la médium, avant qu'elle entre en transe, au milieu de la transe et après la transe, ainsi que la patiente qu'elle traitait en médiumnité guérison, pour observer l'évolution en fait de cette aura. Et ce qu'on observe, c'est que de ces couleurs normales, qui étaient là en l'occurrence dans les bleu-vert, qui seraient les couleurs des guérisseurs, apparaît une espèce d'arc sur la tête blanc, qui, selon la personne qui analysait ces photos, est le propre d'une connexion avec le monde spirituel. Et c'est vrai que cet arc blanc disparaît au moment où Céline se déconnecte. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que la patiente, qu'on a aussi photographiée, qui elle était plutôt dans des rouges-oranges, comme ça, des couleurs plutôt émotionnelles, à un moment donné, quand elle est traitée par Céline, son champ électromagnétique se modifie et devient aussi bleu, quasiment, que le champ de Céline. Donc il y a en tout cas fusion d'énergie qui devient visible. Alors ça ne prouve... rien scientifiquement de nouveau, mais c'est intéressant parce que ça peut s'observer à peu près systématiquement quand un médium travaille. Alors bon, là en l'occurrence pour le film, ça m'intéressait parce que c'est visuel et la médiumnité, ça n'est pas visuel. Donc ça me faisait plaisir aussi d'avoir un peu des choses à me mettre sous la dent, sous la caméra.
Oui, bien sûr. Mais cet appareil photo pourrait tout à fait être une entourloupe. Il faudrait pouvoir vérifier la façon dont il prend les photos, comment ce fameux champ électromagnétique est mesuré, comment il est capté, comment il est ensuite imprimé sur l'image.
Alors bien sûr, ça peut être une entourloupe, sauf que si vous répétez l'opération plusieurs fois de suite et que chaque fois vous observez qu'un médium en transe a cet arc blanc sur la tête, vous dites ok, il se passe quand même un truc. Après, c'est vrai que ça ne prouve strictement rien, si ce n'est que quelque chose se modifie dans leur aura, c'est tout.
C'est une question qui revient souvent, c'est qu'effectivement on ne peut pas prouver. C'est la fameuse question de l'existence de Dieu. C'est exactement la même. Et pourtant, parfois, effectivement, on voit que les médiums, en l'occurrence Céline Bozon-Sommer, apportent des preuves quand même de vie, de l'au-delà, de réponses à certaines questions. Et ça, c'est très troublant. Et puis en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser, de se dire non, mais non, je reviens encore à l'appareil photo et je me dis non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, c'est un peu comme gratter un Polaroid, vous savez, on faisait ça à l'époque, et puis tout à coup, on faisait apparaître certaines choses sur l'image. C'était très drôle, très amusant. amusant. Pour moi, ça relevait un petit peu du même procédé. Uh-huh. Et on balance toujours entre la crédulité et l'incrédulité, en fait, d'une certaine façon. Mm-hmm. Et ça, c'est un des problèmes de ces questions que vous posez, finalement, Denis Gillian, c'est comment est-ce qu'on fait la balance et comment vous avez-vous fait la balance dans le film ?
Alors, il y a un concept que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en étudiant les médiums, c'est celui de preuve subjective. C'est-à-dire, preuve absolue, il n'y a pas. Preuve matérielle, il n'y a pas. Et je pense qu'il n'y aura pas. Par contre, la preuve subjective, c'est le cumul d'indices, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, il devient déraisonnable de dire ça n'existe pas. Là, je fais référence aux descriptions que les médiums font des défunts. Quand vous avez un médium qui vous dit « Je vois un homme de 60 ans qui avait une voiture rouge, qui est mort d'un cancer du poumon, qui avait 3 enfants, qui vivait à la campagne, qui avait 2 chiens, un noir, un blanc, etc. etc. » et que le degré de précision de la description est de cet acabit-là et que ce médium peut le répéter chaque fois qu'il a un client devant lui avec le même degré de qualité d'information, sans rien savoir. Ouais. Céline, ce qu'elle demande, c'est le prénom et la date de naissance. Mais il y a des médiums qui n'ont besoin de rien comme support. Donc à un moment donné, c'est pas une preuve absolue et objective, mais c'est quand même une preuve subjective qui fait qu'on ne peut pas dire il n'y a rien qui se passe, quelque chose se passe, accès à de l'information ils ont. Alors la question d'après, c'est où est-ce qu'ils vont chercher cette information ? Peut-être que c'est de la télépathie, peut-être que dans notre aura, justement, on a stocké une mémoire du passé de nos ancêtres qui est accessible au médium. Ou peut-être qu'il existerait une bibliothèque akashique ou un inconscient collectif ou un disque dur externe, je ne sais pas comment l'appeler. On y met le vocabulaire qu'on peut ou qu'on veut, qui serait accessible au médium. Ça ne prouve pas qu'ils sont en contact avec des défunts, forcément, mais ça prouve, en tout cas, l'accès à des informations. Et ça devient, à mon sens, complètement déraisonnable de pas constater ça, quoi. Il y a trop d'études qui ont été faites, trop de preuves subjectives pour le balayer d'un revers de main.
Nous sommes en compagnie de Denis Gillian et nous parlons de Médium d'un monde à l'autre. C'est un livre publié aux éditions Favre en compagnie d'Alain Maillard et c'est également un film qui sort demain. On a compris qu'on pouvait apprendre à devenir médium, Denis Gillian. On a parlé de ce fameux appareil photo qui tente de montrer l'aura, appelons-la comme ça, de la personne photographiée. Et puis, il y a quand même une chose qui manque, moi je trouve, c'est l'expérience physique. Comment est-ce que... Parce que vous avez assisté à des expériences de médiumnité physique, donc vous avez vu des tables bouger, des lettres se mettre en place toutes seules, sans trucage, enfin, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça dans le film ?
Bon, alors, deux réponses assez simples. D'une part, le film est trop court. À un moment donné, il faut faire des choix. Sûr, ouais. Oui. Mais c'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est qu'en fait, il y a eu un montage où on voyait des tables grimper les murs, on voyait les fameuses planches Ouija, etc.
Mais c'était trop.
Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on a fait des expériences tests sur des publics qui rejetaient ça, mais avec une violence inouïe, soit en disant bah, « c'est du cinéma, c'est truqué ». Donc du coup, ça discréditait tout l'autre aspect du film, et c'était regrettable. Soit alors, c'est tellement insupportable pour un esprit cartésien de voir une table qui grimpe un mur, on n'est pas prêt à ça. Non, que le choc est tel qu'on fait de la dissonance cognitive, ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On rejette, on nous dit n'importe quoi, etc. Donc en fait, à un moment donné, la question se posait vraiment très fort, c'est est-ce que la médiumnité physique et la médiumnité mentale doivent se côtoyer dans un même film ? Et ben non, j'ai pas eu envie de le faire. Je pense que la médiumnité physique mériterait un film à part entière. Mais il faudrait rassurer complètement le spectateur sur le processus mis en place. Il faudrait, je sais pas, une bande de scientifiques qui contrôlerait.
Pourquoi ça ne s'est jamais fait, justement ?
Alors je pense que ça s'est fait, mais ça c'est jamais devenu des films montés, distribués, produits comme ça dans les circuits commerciaux. Mais sur le net, par exemple, vous trouvez un peu des séquences comme ça de planche Ouija ou de médiumnité physique. Malheureusement, on tombe vite dans le spectaculaire, dans ce qui est rendu accessible au grand public. Je pense notamment aux ectoplasmes, des représentations de fantômes, quoi. On voit aussi des médiums qui émettent de la vapeur, qui sortent par leur nez ou leur bouche, et puis qui recréent des formes comme ça, des visages, d'esprits. C'est très dur comme image. Enfin, là, on est vraiment dans un référentiel de l'ordre du fantôme, quoi, qui a tendance à effrayer. Et de nouveau, je crois que c'est trop dans nos cultures matérialistes. Donc du coup, à mon avis, les gens qui travaillent en cinéma dans ce type de domaine n'arrivent pas à monter les productions. Alors il y a des sociétés de production et on trouve des films
sur le net.
Parce
qu'il y a un tel intérêt aujourd'hui pour tout ce qui a trait à l'au-delà, au médium, au guérisseur. Moi, il me semblerait logique que tout à coup, il y a un public pour ça, pour le coup.
Alors, je pense qu'il y a un public pour ça. Mais c'est très difficile de mettre des protocoles en place sécures pour le public. Je vous donne un exemple dans ce que j'ai filmé. J'ai filmé une planche Ouïa. Une planche Ouïa, ce sont des lettres de l'alphabet disposées en cercle. Au milieu de ce cercle, il y a une espèce de petit plot comme ça. Et les médiums ont leur doigt sur le petit plot. Et ils disent qu'à travers leur énergie, l'esprit va pouvoir bouger ce petit objet qui va montrer des lettres. Et très très vite, il y a des phrases qui s'écrivent. Voilà, je voulais filmer ça. Donc, j'ai mis en place tout un processus qui sécurise le spectateur. On a bandé les yeux des médiums, on a fait en sorte qu'ils ne sachent pas où étaient disposées les lettres. Et effectivement, ça a fonctionné. Enfin, voilà, la planche a écrit tout un tas de trucs. Au moment où on a fait les projections test, c'était tellement trop pour les spectateurs qu'ils ont rejeté ça en disant « oui, mais ils guignent sous leur bandeau ». Oui, mais voilà. On est tout de suite soupçonné de trucs. Donc je dirais, pour que de tels films existent et puis soient pris au sérieux, il faudrait vraiment trouver une façon de mettre des protocoles de contrôle.
Donc faire appel aux scientifiques, tout simplement.
Oui, encore, si on a confiance. C'est une espèce de police du cinéma.
Bien sûr.
Un référentiel.
Mais tant qu'à faire, si on est sûr de soi, autant faire appel justement à ces gens-là.
Tout à fait.
Ça me semblerait tout à fait logique. Nous sommes en compagnie de Denise Gillian, médium d'un monde à l'autre, un livre publié aux éditions Favre en compagnie d'Alain Maillard, et le film qui sort demain. On va revenir à vous, si vous voulez bien, Denise Gillian, ce sera juste après. Une chanson de circonstance, Letter to the Lord.
My eyes, they feel good, simple.
Les Tours de l'Ordre, Irma, vous êtes sur la première en compagnie de Denise Gillian. Nous parlons de son film « Médium d'un monde à l'autre, il sort demain ». C'est également un livre, je vous le rappelle, publié aux éditions Favre en compagnie d'Alain Maillard. Alain Maillard sera par ailleurs l'invité de Médialogue demain matin. Qu'est-ce que ça a changé, Denise Gillian, dans l'approche que vous avez de votre métier, ce travail que vous faites maintenant depuis quelques années sur ces expériences de mort imminente, et puis là maintenant sur les médiums. Est-ce que puisque vous avez parlé d'objectivité et de subjectivité tout à l'heure, est-ce que au fond, lorsque vous faites un reportage, lorsque vous faites une enquête, lorsque vous faites un documentaire, est-ce que vous remettez en question votre pratique de la même manière que la fréquentation des médiums pourrait faire chez certains scientifiques, remettre en question leur certitude?
Alors j'ai été surprise de voir qu'il était plus difficile, plus tabou d'aborder des sujets comme la médiumnité, la mort, que par exemple parler de détenus condamnés à perpétuité. Hein, dans mon dernier film, Article 43, il s'agissait de ça. Il y a quelque chose ici qui est politiquement incorrect à s'intéresser à ce qui est ésotérique, etc. Alors, on était très surpris, mon producteur, Pierre-André Thiébaut et moi, de constater ça, parce qu'on n'a pas du tout anticipé la chose. Donc là, la remise en question, elle n'est pas tellement, je dirais, dans la forme à donner au film, ou elle n'est pas tellement cinématographique, mais elle est plus personnelle. Jusqu'où est-ce qu'on risque sa réputation ou jusqu'où est-ce qu'on risque de passer pour un farfelu allumé en abordant des sujets qui sont politiques incorrect ou susceptible de déranger, etc. Donc ça, c'était à un moment donné une question qui était difficile, hein, parce que je pense que c'était plus facile pour moi de parler de détenus condamnés à perpétuité et d'aller dans des débats avec eux que de faire passer l'idée que il y a à mon sens une vie après la mort et que la médiumnité est intéressante.
Il y a un regain d'intérêt pour ces questions-là. Il n'y a qu'à voir le succès d'un livre publié également aux éditions Favre, le livre de Magali Yeni sur les guérisseurs, au point que certains étaient harcelés de coups de téléphone en 1424 et ont décidé de couper leur ligne carrément, parce qu'ils ne pouvaient plus répondre au téléphone, ils n'avaient plus de vie, puisqu'ils pratiquent le secret, donc ne se font pas payer et font ça en plus de leur vie quotidienne, ce qui est assez compliqué, on peut le comprendre, absolument. Donc il y a un regain d'intérêt pour ces questions-là. Il y a aussi question qui se pose ici dans ce studio, peut-être un regard qui a changé de la part de nous toutes et tous sur les médiums, sur les guérisseurs, partant du principe qu'effectivement auparavant on trouvait ça très exotique et on allait se faire soigner au Brésil chez le fameux João, alors qu'on a des grands-mères à Courtellemont qui font la même chose. Donc là il y a quelque chose qui change, mais ça veut dire aussi quoi? Qu'on a moins confiance dans la médecine aujourd'hui?
Alors moi je ne l'expliquerai pas comme ça. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de plus en plus de donner du sens. Et donner du sens, ça passe par se relier à l'invisible, se relier à plus grand que soi. Les religions sont en voie de disparition dans nos cultures.
Enfin, pas partout.
Non, mais je pensais
certaines même.
Je pensais à nos cultures
occidentales. Hein,
où la science a pris le dessus, justement, où il est aussi politiquement beaucoup plus correct de croire en la science que de croire en Dieu. Ouais. C'est à ça que je faisais référence. Mais je pense que se relier, cette quête de sens est un besoin de l'humain. Et moi, j'ai l'impression que quand on parle médiumnité, de guérisseurs, de gens qui ont le secret, de voyants, etc., etc., c'est une autre façon de se relier au monde invisible que d'aller à l'église. Alors, évidemment, c'est quand on peut joindre l'utile à l'agréable. Hein, quand il s'agit de se faire soigner ou de faire soigner ses enfants, c'est plus facile d'accès. Moi, je l'expliquerai comme ça. Et puis, avant, dans nos cultures, on était liés aux esprits. On croyait à tout ça. Et à un moment donné, ça a disparu avec l'industrialisation et l'arrivée de la psychanalyse. C'est comme si, à un moment donné, les psys avaient remplacé le lien avec le monde invisible. Hein, en expliquant tout comme ça sur l'inconscient, le surmoi, le moi, que sais-je.
Le désir de sa mère qui expliquerait.
Ça a évincé les guides spirituels, les anges et les archanges. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on y revient. On y revient parce qu'en mon sens, l'invisible et le visible, c'est un tout. On ne peut pas vivre dans une dimension seulement. Et puis, vous parlez de confiance au niveau de la médecine. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important de parler de la complémentarité des deux médecines. Parce que dans le cadre des cancers, par exemple, il y a de plus en plus de médecins qui collaborent avec les guérisseurs. Sachant que la chimio est souvent indispensable, mais quand un guérisseur agit en parallèle, il soulage des brûlures, des hémorragies, et du coup, le patient se sent beaucoup mieux. Donc il ne faut pas nier ça, même si on n'arrive pas à l'expliquer, c'est dommage de cracher dans la soupe, il faut en profiter, il faut l'utiliser. Et ça, ça se sait, de plus en plus les gens en parlent. Et par rapport à l'autre chose que vous souleviez, hein, avant on allait aux Philippines, au Brésil, il y a un autre phénomène aussi qui se passe, c'est que la formation s'exporte. Les médiums anglais viennent former des gens ici. À l'école de Neuchâtel, par exemple, l'école Fréquence, la plupart des enseignants sont des médiums anglais qui prennent l'avion, qui viennent former les élèves et qui repartent. Donc ça veut dire que c'est un savoir qui est en train de se mondialiser, ce qui n'était pas le cas avant.
Avec cette différence que, effectivement, je comprends bien qu'on puisse enseigner certaines capacités aux médiums, enfin à celles et ceux qui désirent le devenir, c'est-à-dire développer certaines capacités qu'ils auraient ou pas, par ailleurs. Quand on parle de guérisseurs, puisqu'on parlait de Philippins et de Brésiliens, ou voire de Mexicains tout à l'heure, là c'est encore autre chose. Ça rentre pas dans la même catégorie. On peut pas enseigner ça.
Je pense qu'ils se l'enseignent, par exemple aux Philippines, dans familiale. Les familles, voilà.
Oui. Ouais. Comme les guérisseurs ici.
Absolument. Ouais. Donc si, ça s'enseigne, mais plus par le, c'est moins théorique. Quoi. J'étais aux Philippines justement en avril. J'avais envie de voir les guérisseurs travailler de tout près. Et c'est pas verbal. Il y a pas de théorie. Les guérisseurs, ils arrivent absolument pas à verbaliser, à expliquer ce qu'ils font. Par contre, ça fonctionne un peu de façon tribale. Hein. Dans les villages, il y a un guérisseur qui soigne. Ses enfants le voit. Et souvent, il y a un des fils ou une des filles qui reprend cette pratique, mais par mimétisme, qui reprend le modèle, en fait.
Donc vous avez vu ces fameuses séances où l'on voit le guérisseur traverser la peau, aller chercher le mal, si je puis dire.
Alors, j'ai vu ça pendant 3 semaines. J'ai eu cette chance-là, en fait. Après avoir fini le montage du film, j'ai eu envie d'aller plus loin, parce que j'avais entendu parler de ces guérisseurs, etc. J'avais vraiment envie de voir, de mes yeux voir. Parce que moi aussi, je suis un peu sceptique, cartésienne... aussi, quoi, de par ma culture. Donc, je suis allée aux Philippines en avril voir le guérisseur Alex Orbito. Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir l'observer au travail pendant 3 semaines.
Vous avez filmé ça ou pas?
Non, je suis allée sans caméra. C'était vraiment curiosité personnelle. Et je me suis retrouvée à côté des tables d'opération, en fait, de ce guérisseur qui, effectivement, traverse la matière. Alors, on a du mal à y croire, mais on voit sa main qui passe dans le corps, alors que la personne est juste allongée, elle n'est pas sous anesthésie, rien ne l'y prépare. Et en fait, ce qu'ils disent, ces guérisseurs, c'est qu'ils traversent la matière, ils matérialisent la négativité de la maladie, et vraiment, ils la matérialisent. Ça veut dire qu'on voit dans sa main des espèces de saucisses noires, ou des espèces de bouts de chair, etc., qui jettent à la poubelle, bêtement. Ensuite, il pose sa main sur la partie du corps dans laquelle il est entré, et il n'y a aucune cicatrice, il n'y a plus rien, ça dure 2 minutes, la personne se relève, elle va boire une bière au bar. Donc c'est une forme de médecine qui n'a rien à voir avec la nôtre.
Ambulatoire express, vraiment.
Ambulatoire express, ça met au défi, en fait, tout ce qu'on apprend ici, ne serait-ce que les règles élémentaires d'hygiène. Ah oui, j'ai vu ça pendant 3 semaines, je dois dire que j'en suis revenue assez soufflée. Quoi. Forcément, ça modifie très très fort, de nouveau, un système de croyance, une échelle de valeurs.
Et j'imagine que vous avez regardé partout, voir s'il n'y avait pas un truc, vous étiez sous la table, au-dessus, autour, à côté.
Alors je dirais, les 10 premières opérations que j'ai vues, j'y ai pas cru. C'est juste, ça dépasse l'entendement.
Ouais, ce que raconte Alejandro Jodorowsky dans un de ses livres, c'est qu'il voit la même opération au Mexique et il dit, mais je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, ou même si je l'ai vu ou pas vu, tellement ça dépasse l'imagination.
On a beaucoup de mal à admettre cette mise au défi. Traverser la matière, c'est quand même, on bascule dans une autre dimension, c'est de la science-fiction presque. Donc mais j'ai mis 3 jours, quoi, 10 d'opérations où j'ai regardé sous la table, j'ai fait le tour de la table, j'ai regardé s'il y avait rien dans les manches, j'ai enfin, vraiment observé de part et d'autre. Et je peux garantir maintenant que non, il y a pas de truc, ils le font. Ils le font.
Alors, ça vous donne pas envie de le filmer, ça?
Alors, il y a énormément d'images qui existent. Et il y a d'excellents films qui ont été faits sur les guérisseurs. Et notamment un film qui s'appelle « Les guérisseurs de la foi » qu'on trouve sur Internet de Jean-Dominique Michel, qui est remarquable. Donc, c'est fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le refaire encore. Par contre, ça vaut la peine, de le voir. Voilà. Oui. Un petit voyage aux Philippines, je recommande.
Voilà, c'est noté. À la recherche de preuves de vie dans l'au-delà, c'est le thème central de ce livre, Médium d'un monde à l'autre, et puis au fond de ce besoin que nous avons de communiquer avec l'au-delà et de savoir ce qui s'y passe, de ce qui s'y dit, de ce que l'on dit de nous, de comment est-ce que nous sommes vus, perçus vraisemblablement. Vous-même, vous avez pratiqué, Denis Gillian, vous l'avez dit tout à l'heure. Plus concrètement, comment est-ce que vous comprenez à la fois ce scepticisme, parce que nous sommes toujours coupés en deux, d'une certaine façon, avec ces histoires-là. C'est-à-dire qu'on peut voir certaines choses et dire « Ah ouais, je l'ai vu », puis en même temps, il y a quand même cette part de nous qui dit « Tu n'as pas vu cela, ce n'est pas possible ». Il y a quand même ce désir, et c'est peut-être le propre de l'homme, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, non ?
Oui, c'est ce que dit très bien Narcisse Prat, justement. Ouais. Il dit, mais enfin, pour l'homme, la mort, c'est insupportable. Ouais. Donc on s'invente tout et n'importe quoi pour ne pas avoir à affronter sa propre finitude, au fond. Ah oui, c'est une façon de vivre. Moi, je trouve que la vie a plus de goût et plus de sens quand on ouvre sur une après-vie, sur un devenir, quand on part du principe qu'on est en train de vivre une étape de quelque chose qui est plus long. Mmh. Je trouve que ça rend les gens aussi plus responsables. Hein, si on se dit qu'on fait partie d'un grand tout et puis que non, il n'y a pas après moi le déluge, qu'on est co-responsable complètement de ce qu'on vit aujourd'hui et puis que tout ça va perdurer, peut-être ad aeternum, ben, y a un sens des responsabilités comme ça et peut-être un respect plus grand des choses, de la vie, de l'hérédité, de ce qu'on transmet, de ce qu'on ne transmet pas. Et moi, je trouve ça donne du sens. J'aime ça pour ça, quoi.
Ça veut dire que dans nos sociétés modernes, occidentales, nous avons perdu le sens du lien, c'est-à-dire ce qui nous relie à notre passé et puis ce que nous transmettons.
Alors ouais, là vous abordez encore un chapitre.
Non, parce qu'on parle de psychogénéalogie aussi. Oui.
Mais ça participe... Ça participe de tout ça. Hein, le culte des ancêtres, par exemple, qu'on a complètement perdu ici, c'est très dommage, parce que c'est vrai qu'on est en rupture de lien, mais pas qu'avec nos disparus, on parque nos vieux aussi dans des EMS et dans des appartements tout seuls. Enfin, ça participe de la même chose, quoi.
Et on hypothèque le futur de nos enfants, c'est ça?
En plus, ouais. Alors oui, pour moi, ce respect du monde invisible, des défunts, cette croyance en une survivance, en un dialogue possible dans le monde invisible, etc. Ben oui, peut-être que ça peut amener à plus de respect aussi du vivant incarné, si je peux dire ça comme ça.
Parmi tous les sujets que vous avez tournés, vous faites un lien, une sorte de fil rouge qui pourrait les relier entre eux. Je repense à l'article 43, des gens qui sont condamnés à mort, enfin pas à mort, pardon, mais à perpétuité, excusez-moi, une sorte de mort lente, mais des gens qui sont condamnés à perpétuité, qui vont passer le restant de leur jour en prison. Les expériences médiumniques, la recherche de contact avec l'au-delà, vous faites un lien entre tous ces sujets que vous abordez ?
Non, pas directement. Pas directement. Je dirais que derrière tout ça, il y a toujours le respect de l'humain et de son droit au changement, de son droit à l'expérimentation. Ça, oui, c'est un peu un thème récurrent. J'aime bien aussi aller donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Mais je ne m'amuserai pas à comparer des médiums à des détenus. Enfin, voilà.
C'est pas... Non, mais même dans l'intérêt que vous avez pour ces sujets-là. Voilà,
même s'ils sont marginaux. Voilà. Ce sont des marginaux, ça, c'est vrai. Autant les médiums que les détenus, je pense. La marge m'intéresse. Ouais. Mais ce n'est pas du tout... même genre de marge dont on parle.
Votre prochain sujet, il aura trait encore une fois à ces phénomènes paranormaux, à la marge, vous ne savez pas ?
Je ne sais pas.
Vous travaillez quand même là sur un long métrage ?
Je ne sais pas encore. Oui, alors j'ai un long métrage sur le feu, qui touche à la gémellité, à la schizophrénie.
Ah, vous voyez.
Oui.
On est encore dans la marge.
Oui.
Absolument. Denis Gillian, merci d'être passé nous voir. Je rappelle la sortie du film demain sur la page web de l'émission apremièrevue.rsr.ch. Je vous trouverai des liens qui vous emmèneront vers les différentes séances des différents cinémas ainsi que sur la page consacrée au film sur Internet avec ses différentes projections en compagnie de Céline Boson-Sommer qui est la personne centrale de ce film et puis le livre coécrit par Alain Maillard aux éditions Favre, sous-titré « Communiquer avec les esprits, expérience et témoignage ». Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Et si en plus, il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne,
Alain Souchon, et si en plus il n'y a personne, mais si, il y a quelqu'un, il y a Mélanie Combaillon qui est là, bonjour.
Oui, je suis là, bonjour.
Un dromadaire sur l'épaule à partir de 14h sur la première. Nous partons toute cette semaine dans le Bronx,
oui, nous
avec
sommes
vous,
toujours dans le Bronx,
l'un
mais...
des boroughs de New York.
Eh oui, absolument.
Ouais, il y en a 5, si ma mémoire est bonne, c'est ça.
Oui, oh, alors là, vous me posez une colle,
je sais plus,
comme
c'est
ça,
pas très grave.
Mais en tout cas, le Bronx est l'un des seuls qui n'est pas sur l'île de Manhattan, hein, il est sur la terre ferme. C'est un quartier donc, de New York, quartier à mauvaise réputation, mais aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un peu différent. On va s'éloigner de ce cliché de violence, on va manger italien. J'espère que vous avez déjà mangé, parce que sinon, vous verrez...
J'ai déjà mangé, hélas.
Ouais, parce que sinon, vous auriez directement foncé à une épicerie italienne pour vous acheter de la mozzarella, des pâtes, etc.
Nous serons accompagnés d'un certain Roberto Pacciullo.
Il est chef, il est italien, évidemment, d'origine. Ouais. L'un des nombreux membres de la communauté italienne de New York. Et c'est de cette communauté, justement, qu'on va parler aujourd'hui, avec le reportage de Cerise Maréchaux et avec mon invité, Alexis Buisson, qui sera en deuxième partie, en direct avec nous depuis New York. Il se réveille, là, maintenant, il est en train de se préparer pour l'émission. Et puis, on va l'appeler chez lui, il habite Washington Heights, c'est juste à côté du Bronx, donc c'est dire s'il connaît bien ce quartier.
Merci Mélanie Croubagnon, ce sera donc tout à l'heure dans un dromadaire sur l'épaule à partir de 14h. Dominique Stalder était en régie aujourd'hui, la programmation a été signée. Nathalie Schauenberg, on se retrouve bien évidemment demain.
À première vue, avec le temps.
Il est 14h, à demain.